Bon milieu de matinée à tous, c'est l'émission Les Voix de Service Magazine. Mon nom est Claude Blas, bien heureux de vous retrouver en ce 27 août déjà, et c'est la semaine de la... Déjà, et le tout se fera graduellement au cours de la semaine. Alors, s'il vous plaît, prudence sur la route, et surtout, prenez bien note que la ville de Montréal a changé le maximum de vitesse sur quelques artères. Alors, il faut le faire très attention, entre autres sur la rue Saint-Denis, dans le secteur Ville-Marie, où c'est maintenant 40 km/h le maximum. Alors, vous voyez, on a deux collaborateurs ce matin, encore une fois, les deux meilleurs, sinon Franceline aussi, quand elle vient, est une des meilleures aussi. Alors, on va retrouver tout de suite Roger Roy.
Bonjour, Claude.
Comment allez-vous?
Nous allons bien.
Oui.
Nous allons très bien, oui.
Tant mieux. Bon week-end.
Bon week-end, bon été, tout va bien.
Non,
un peu trop chaud, par ailleurs, pour certains qui pratiquent des sports extérieurs, comme le golf, par exemple.
Encore aujourd'hui ou demain.
C'est dur. C'est très dur pour les golfeurs cette année parce qu'il fait trop chaud.
Oui, effectivement.
Ouais, c'est ça.
Moins de golfeurs hein, sur les terrains.
Oui. Non, ben, ça dépend des jours.
Ça dépend des jours?
Oui, c'est ça.
Bon. Alors, les articles de ce matin.
Ah, bon, des questions sans réponse. C'est Marie-France Bazot qui s'exprime en matière d'éducation dans l'actualité, dans sa chronique, chronique, je dirais mensuelle. Société, c'est dans l'actualité. Par ailleurs, je veux vous parler du mouvement Les Impatients.
Les impatients.
Impatients.
Ah.
Je vous dis de quoi il en tourne dans quelques instants.
D'accord. Merci beaucoup, Roger. Et on retrouve naturellement Serge Hamelin. Comment
oui,
allez-vous ce matin?
Ah, moi, de mieux en mieux, de jour en jour. Et ça, à tout point de vue, dans tous les domaines de ma vie, jusqu'à la mort, ça, la libération. Alors, vous m'avez posé une question, j'y ai répondu. La ligne verte, je vais vous parler de la ligne verte,
oui.
Qui est le point sur la consommation responsable. Ça, c'est dans la revue Protégez-vous.
Ah.
OK. Alors, achetez usagé. Qu'on va vous suggérer ce matin, mais pas n'importe comment.
Hein? Ah, y a des bonnes
et
choses
je vais acheter, vous parler pas des haut-parleurs, comme qu'il y en a qui disent,
oui.
Mais des haut-parleurs intelligents. Saviez-vous ça, qu'il y avait des haut-parleurs intelligents, vous?
Oui, les types les Google types... de ce monde. Et... Oui, c'est ça.
Et moi, j'ai appris ça, là.
Ah, d'accord. On a bien hâte d'entendre ça. Et de mon côté, je vous lirai un texte, en fait, un article que j'ai retrouvé dans... l'actualité de juillet dernier, et je le dirai en deux temps, en fait, dans la première demi-heure et dans la deuxième, c'est l'étonnant pouvoir de l'hypnose.
Yes.
C'est mon ami Roger qui m'a refilé ce texte. Alors, j'en suis bien content. Alors, je vous le lirai en deux parties. Pour l'instant, dans quelques instants, en fait, on va retrouver Roger avec son premier article. Alors, Roger, dans le Reader's Digest.
Oui, c'est ça. C'est un texte de Anne-Frédérique Hébert Dolbecq.
Mm-hmm.
Elle intitule son texte « Le salut au bout du pinceau ». En 1999, lorsque Lise Lepron, alors au début de la cinquantaine, pousse la porte de l'atelier des impatients, elle le fait avec un enthousiasme teinté d'un doute tenace. Elle traverse alors une période difficile de sa vie, et on lui a dit que l'approche de Lorraine B. Pallardy ne pouvait que lui faire du bien. Elle va y rester une quinzaine d'années et vient d'être choisie porte-parole de l'organisme. Le premier jour, je me suis assise dans un coin, j'ai pris une toute petite feuille car je n'étais pas certaine de pouvoir dessiner. Au fil du temps, les feuilles se sont agrandies, des couleurs se sont ajoutées, j'ai participé à des dizaines de projets, mes tableaux ont été exposés aux côtés de ceux de grands artistes. Je ne cessais de me surprendre moi-même. C'était un sentiment complètement inconnu pour moi. Pour la première fois, elle se sent à sa place. Après des années à peiner sur les bancs d'école, elle découvre qu'elle aussi a du talent, qu'elle aussi peut réussir. 15 années ont passé et elle a senti qu'il était temps de déployer ses ailes. J'ai décidé de partir il y a environ 5 ans parce que je me sentais prête à exploiter mon talent artistique ailleurs que dans un contexte relié à la santé mentale. Depuis, je vis des hauts et des bas. Je n'y parviens pas toujours, mais c'était une décision que je devais prendre. Voilà plus de 25 ans que la galerie Lorraine B. Pallardy et son équipe d'artistes ouvrent la porte de leurs ateliers à des patients qui, à travers la peinture, le dessin, la musique, l'écriture ou la danse, sortent de l'isolement et reprennent grâce et reprennent goût à la vie. Ici, pas de thérapie, ou plutôt une forme de thérapie unique, la création. Bien qu'elle ait laissé les rênes de l'entreprise à son fils Frédéric il y a 4 ans, l'énergie et la vision artistique de Mme Palardy sont encore bien présentes dans l'atelier principal, rue Sherbrooke à Montréal. Des salles d'exposition côtoient des ateliers de création vivants, où une dizaine d'artistes installés autour d'une grande table à dessin imaginent chacun à leur façon un nouvel univers. Je ne pensais pas que les impatients susciteraient un tel engouement. Il faut dire que ça m'est tombé dessus un peu par hasard. En 1989, Mme Palardy est présidente de l'Association des galeries d'art contemporain de Montréal, lorsque la Fondation des maladies mentales s'adresse à elle pour organiser des ateliers d'art auprès des patients de l'hôpital Louis-Hippolyte Lafontaine durant une dizaine de jours. À cette époque, on ne fait plus d'art-thérapie dans les hôpitaux. La mode est à l'occupationnel, à l'apprentissage de tâches manuelles répétitives. L'objectif, la réinsertion des malades dans le milieu du travail. Lorsque nos ateliers ont pris fin, on m'a appelé pour me dire que les patients attendaient impatiemment dans le corridor que la porte de l'atelier ouvre pour poursuivre leur travail. On a compris qu'il y avait là un besoin. Mme Palardy et ses collaborateurs ont donc rouvert les ateliers d'art, pensant que quelques mois suffiraient à calmer cet enthousiasme, mais la demande, au contraire, n'a jamais cessé de grandir. Naît alors la Fondation pour l'art thérapeutique et l'art brut du Québec, dont on confie la direction générale à Mme Palardy, et qui deviendra plus tard les impatients. Je ne connaissais rien à la maladie mentale, ni à la philanthropie. On a démarré le projet dans un sous-sol de Montréal-Est, et tout le monde tentait de nous en dissuader. On nous disait que notre mission artistique était trop pointue, qu'il fallait ajouter un volet de réinsertion sociale. Heureusement, j'étais entouré de gens courageux qui m'ont soutenu. Depuis, le projet n'a jamais cessé de prendre de l'ampleur. Au fil des ans, nombreux sont ceux qui ont participé à des expositions, des recueils et présentations artistiques en compagnie d'artistes reconnus tels que René Derouin, Robert Racine et la regrettée Marcel Ferron. Aujourd'hui, 650 impatients participent chaque semaine aux ateliers de l'organisme dans 13 lieux dispersés à travers la province. L'organisme dispose d'une collection de 15 000 œuvres réalisées par les participants. Après tant d'années, c'est son amour pour l'art et surtout pour les gens qui donnent à Mme Palardy la force de continuer à donner de son temps à la Fondation. Au début, j'ai eu un choc esthétique en voyant les impatients peindre. Contrairement aux étudiants qui sortent des grandes écoles, ils ont une absence de mimétisme qui m'émerveille encore maintenant. Après les œuvres, je suis tombée amoureuse des personnes. Les impatients sont dans la vérité. Mme Palardy et son équipe m'ont accueilli et m'ont permis d'être moi-même, conclut Lise Lepron. J'ai pu découvrir de nouvelles facettes de ma personnalité et de ma créativité. Ça a été un véritable antidote à ma dépression. Aujourd'hui, l'ancienne impatiente est en mesure d'assumer son rôle de porte-parole et de s'adresser au public. Cette année, elle a participé à quelques activités de l'organisme, notamment au vernissage d'une exposition de peinture et à une lecture publique. Je suis capable de dire ce que j'ai envie de dire et non ce que les gens ont envie d'entendre, conclut-elle. Les impatients me motivent encore aujourd'hui à être moi-même. Le salut au bout du pinceau, c'est un organisme qu'on connaît peut-être un peu moins, mais qui semble faire passablement du bien.
Il fait le travail, en tout cas.
Oui.
Merci beaucoup, Roger. Dans quelques instants, on retrouve Serge avec un article du Protégez-vous. Alors, Serge, oui? Premier article de votre côté.
Oui, alors, attendez-vous un bébé?
Hein?
En avez-vous un?
Non, s'ils ne sont plus bébés.
Non, pas vous, là, mais je posais ça à nos auditeurs, la question.
Oui,
OK. D'accord. Alors, il y a de quoi? Je vais vous dire quelque chose qui peut peut-être vous aider ce matin. On a fait des calculs. Mm-hmm. Un bébé, sa première année, si on achète tout ce qu'il faut, là, hein, neuf, ça coûte 6 000 $. C'est quelque chose, un bébé, hein? Donc, vous voulez économiser. Alors, la revue Protégez-vous s'est penchée sur le phénomène. Par exemple, vous pouvez acheter une poussette au prix de 950 $. C'est la meilleure, il faut dire. Hein?
Ah.
Mais c'est rendu, c'est presque le prix d'un char usagé, ce 950 $.
Tout à fait.
Alors, elle doit fonctionner, elle doit bien fonctionner, la poussette. Bon, alors, écoutez, parents, pensez usagés. C'est Rémi Leroux qui a écrit cet article-là dans Protégez-vous. Alors, entre les vêtements, les jouets, l'ameublement et les articles de transport, siège d'auto, poussette, porte-bébé, etc., les dépenses montent vite. En utilisant le calculateur du site babycenter.com, on a estimé à 5 800 $ les coûts associés à la première année de vie d'un bébé si tous les objets, comme je vous disais tantôt, sont achetés neufs. Mais est-ce que c'est bien nécessaire de vous équiper juste avec du neuf? Pour réduire la note, pensez usagé. C'est ici que votre réseau vous sera d'un grand secours. N'hésitez pas à le solliciter pour voir qui, parmi vos proches, serait enclin à vous prêter ou même vous donner une table à allonger, un manteau d'hiver ou un transat. Et si personne n'a en stock ce que vous cherchez, vous pouvez vous tourner vers les plateformes d'achat et de revente en ligne ou encore vers les magasins d'articles d'occasion. Selon l'indice Kijiji 2018, qui présente chaque année l'évolution de l'économie de seconde main au Canada, les vêtements et accessoires pour bébés arrive en troisième position des biens les plus échangés entre consommateurs. Si les Québécois ne sont pas les champions de l'économie de seconde main, ils se classent bon avant-dernier au pays, l'arrivée d'un bébé pourrait les inciter à découvrir les vertus de l'usager et ainsi inverser la tendance. L'achat d'équipements d'occasion s'inscrit dans une logique d'économie circulaire où les produits sont utilisés plus longtemps et plus fréquemment avant d'être recyclés ou transformés. Alors voici quelques exemples d'équipements pour bébés qui ont déjà servi et qui, s'ils sont toujours sécuritaires, pourraient vous permettre d'épargner des centaines de dollars et faire de vous des consommateurs plus responsables. Par exemple, un siège d'auto. Votre cousine vous offre le siège d'auto de son plus vieux? Très bien. Surtout si l'objet semble en excellent état. Sachez toutefois que la Société de l'assurance automobile du Québec ne recommande pas l'utilisation d'un siège déjà utilisé. L'exposition aux rayons du soleil, les écarts de température ou encore un mauvais entreposage, par exemple, pourraient avoir endommagé le produit. Si vous souhaitez tout de même accepter ce don, assurez-vous que le siège arbore l'étiquette de conformité de Transport Canada. La date d'expiration n'est pas dépassée. Alors, il y a des dates d'expiration sur les sièges d'auto. OK. Alors, tous les éléments sont inclus et en bon état. Le manuel d'installation et d'utilisation, etc. Et le siège n'a jamais été accidenté. Il pourrait y avoir des fissures invisibles dans la coque. Alors, voilà pour le siège d'auto. Vous voulez acheter une poussette maintenant? Je vous parlais d'une poussette à 950 $. Alors, à l'état neuf, certains modèles de poussettes peuvent coûter jusqu'à 1 000. Pas étonnant que les parents recherchent de l'usager. Alors, avant l'achat, Santé Canada recommande de vérifier que le nom du fabricant, le numéro du modèle et la date de fabrication apparaissent sur la poussette. La ceinture abdominale et la sangle d'entrejambe sont solidement fixées au siège ou au cadre, et que le dispositif de freinage et les mécanismes de verrouillage des modèles pliables fonctionnent bien. Et moi, je vérifierai les roues aussi. Parce qu'une poussette qui perd une roue... La chaise haute. Une petite chaise haute avec ça? OK. Pour que bébé puisse faire ses expérimentations alimentaires sans que vous soyez inquiet, une chaise haute d'occasion doit respecter certaines normes de sécurité selon Santé Canada. Alors, vérifiez que le nom du fabricant, le numéro du modèle et la date de fabrication apparaissent sur le produit, que le harnais du siège est solidement fixé par ses 5 points d'attache. 2 points à la ceinture abdominale, la sangle d'entrejambe et les bretelles. Le système d'enclenchement ou de verrouillage fonctionne bien et qu'aucune pièce en bois ou en plastique à découvert ne présente d'éclat ou de fissure. Quand même, il faut faire attention. Un lit. Un lit usagé peut être une solution douillette et économique. Santé Canada déconseille toutefois l'utilisation d'un lit à barreaux de plus de 10 ans. Ah bon? Car les risques qu'il y ait des pièces brisées, usées, desserrées ou manquantes sont plus élevés qu'avec un modèle neuf. Assurez-vous que toutes les pièces sont solidement fixées et les barreaux en particulier. Alors, certains équipements en fin de vie peuvent être recyclés ou transformés. C'est le cas notamment des sièges d'auto pour enfants. Et le Centre de recherche et d'éducation à l'environnement régional, CREER, a conçu une méthode qui permet de les transformer en bancs de parc, tables à pique-nique ou accessoires pour animaux. D'autres entreprises comme TerraCycle recyclent de nombreux articles pour bébés, y compris les lits, les chaises hautes, les poussettes. Vous pouvez aussi vous débarrasser écologiquement des produits en allant les porter dans le centre de, récupération de matières résiduelles, éco-centre de votre région. Puis quant aux jeux, hein, il y a mille et un jeux. Eh bien, on va terminer avec ça. Vous achetez un lot de jouets pour bébés dans une vente débarras. Pour éviter la transmission de microbes, désinfectez-les au lave-vaisselle à 60 degrés s'il s'agit de matière rigide. Et les produits faits de textiles comme les pluches devraient quant à eux être lavés à la machine à 60 degrés pendant au moins 50 minutes et ensuite séchés à haute température s'il reste quelque chose après le lavage. Alors, louer des jouets dans les joujoutèques pourrait aussi vous aider à économiser. Ces lieux fonctionnent sur le même principe que les bibliothèques. Vous pouvez emprunter des jeux pour plusieurs semaines, moyennant des frais d'abonnement variant de 5 à 30 $. Oui, mais tout le monde a joué avec ça. Tout le monde a mordu le jouet. On ne parle pas de les laver, ceux-là. Alors, et puis, gare au rappel, avant d'acheter d'occasion un produit pour enfants, assurez-vous toujours qu'il n'a pas fait l'objet d'un rappel pour une défectuosité. Alors, c'est quelque chose avoir un bébé, hein?
Oui, tout à fait.
Oh là là!
Mais le terme donné au suivant s'applique tout le temps. Hein? C'est comme...
Ah, mais oui, c'est sûr.
Il y a tout le temps quelqu'un qui a un bébé quelque part, et puis on peut lui donner ou on peut le vendre. En fait, à bas prix. Oui, ouais, tout à fait. Merci beaucoup, Serge. Vous avez été chez le dentiste dernièrement, non?
Dernièrement.
Mais vous savez que les dentistes peuvent faire de l'hypnose.
Ah?
Ah, ben je vous en parle tout de suite après la pause musicale. À tantôt.
Rejoindre la grand-mère, un autre family, un autre family. Oh, je ne peux vivre sans toi, et je ne peux vivre avec toi. Mais tu peux très bien vivre sans moi, je suis foutu dans les deux cas. I lost my baby, I lost my darling, I lost my friends, I lost my mind. Coup de fil de Jimmy un jour tomba pour une fille d'Ottawa, grandi je ne sais pas, d'un père pilote de l'air et d'une mère je ne sais quoi, tous deux aimaient le cinéma. Nous sommes habitants de la terre, il y a des milliers de frontières, quelqu'un existe dans l'univers pour quelqu'un d'autre et c'est la guerre. I lost my baby, I lost my darling, I lost my friends, I lost my mind. Pour une fille d'Ottawa, grandie à Sainte-Foy, et qui un jour tomba
pour un chanteur populaire grandi en Algérie, assez foqué merci, et qui lui dit adieu, je repars faire ma vie à Hawkesbury, à Hawkesbury, à Hawkesbury, à Hawkesbury. I lost my baby, I lost my darling, I lost my baby, I lost my darling, I lost my friends, I lost my mind, I lost my darling, I lost my friends, adieu my baby.
À Canal M, c'était Jean Leloup, I lost my baby.
Merci beaucoup. L'étonnant pouvoir de l'hypnose, un article que j'ai trouvé dans l'actualité du mois de juillet dernier. Et c'est un papier de Catherine Dubé. Et elle écrit ce qui suit. Se faire hypnotiser pour subir un traitement dentaire, pour calmer une douleur chronique ou pour mieux dormir, eh bien, c'est possible. Et c'est bien moins farfelu qu'on pense. En Europe, d'ailleurs, l'hypnose a même fait son entrée en salle de chirurgie. Dans le fauteuil du dentiste pour un traitement de canal urgent, il y a 2 ans, le psychologue Jacques Desaunier continuait d'avoir mal malgré les nombreuses doses d'anesthésiques qu'on venait de lui injecter. Il s'est plongé en état d'auto-hypnose et n'a rien senti de toute la durée de l'intervention. La douleur n'est apparue que lorsqu'il est sorti de l'état hypnotique. Il le fallait bien pour régler la facture et reprendre la route jusqu'à chez lui. Il a alors pris une bonne dose d'analgésique, exactement ce que l'on recommande aux patients quand ils dégèlent après une intervention dentaire. Jacques Desaunier a utilisé l'hypnose auprès des patients souffrant de fibromyalgie, entre autres, et de douleurs chroniques pendant près de 25 ans à l'hôpital juif de réadaptation de Laval. Aujourd'hui, président de la Société québécoise d'hypnose, un regroupement d'environ 250 psychologues, dentistes et médecins formés à cette technique, il souhaite qu'elle gagne en popularité auprès des professionnels de la santé. Il dit que c'est efficace pour la plupart des gens et ça ne coûte pas cher. Les bénéfices sont nombreux, moins de douleurs et d'anxiété, un sommeil plus réparateur, des effets positifs sur l'humeur, etc. Le 21e Congrès mondial d'hypnose médicale et clinique, qui se tiendra pour la première fois à Montréal du 22 au 25 août, dernier, ça vient tout juste de passer, sera l'occasion d'entendre des sommités du domaine, dont la Belge Marie-Élisabeth Fin-Monville, anesthésiste au Centre hospitalier universitaire de Liège, qui a eu recours depuis des années en salle d'opération, et l'Américain David Spagel, psychiatre à la faculté de médecine de l'Université Stanford, qui étudie notamment l'effet de l'hypnose sur le stress et la douleur auprès de patients atteints de cancer. Plus 1 000 000 de participants ont été attendus à ce congrès. L'hypnose clinique a peu à voir avec celle pratiquée sur scène. Loin de faire des piteries, une personne sous hypnose dans un contexte médical est si calme qu'elle semble même dormir, bien qu'elle soit éveillée et entende la voix du praticien. J'ai pu expérimenter cet état de conscience modifié, installé dans le fauteuil d'un cabinet de psychologue, guidé par la voix grave de Jacques Desaunier. Il m'a invité à respirer très calmement en fixant un point sur le mur devant moi, à détendre tous mes muscles, puis il a compté à rebours en me demandant de fermer les yeux. Chaque fois que je dirai le mot « maintenant », vous plongerez dans un état de détente 2 fois plus profond. Maintenant, vous plongez dans un état de détente profond et répétez comme ça, maintenant, maintenant. Au bout de quelques minutes, j'étais effectivement très détendu, peu consciente de mon corps immobile, mon esprit semblant flotter dans un non-lieu baigné de limbe mauve, et chacun son truc, bien loin du stress de la vie quotidienne en tout cas. C'est cet état de bien-être que cherchent à faire naître les thérapeutes et professionnels de la santé, un état où l'on prend la notion du temps, dans lequel l'esprit est complètement absorbé par l'expérience et réceptif aux suggestions. Les techniques d'imagerie cérébrale lèvent aujourd'hui une partie du voile sur cet état mystérieux. Sous hypnose, les zones cérébrales associées à la vision et aux sensations s'activent comme si nous vivions réellement les suggestions. Une sensation de sable chaud sous les pieds à laquelle nous consacrons toute notre attention devient plus convaincante pour le cerveau que la douleur ressentie ailleurs dans le corps.
Dans l'une de ses nombreuses expériences sur le sujet, le chercheur en neuropsychologie Pierre Rainville de l'Université de Montréal a demandé à des volontaires sous hypnose dont la main était plongée dans de l'eau très chaude d'imaginer que l'intensité de leur mal pouvait varier comme le volume d'une radio. À l'imagerie cérébrale, lorsque le chercheur suggérait de diminuer le volume de la douleur, l'activité des régions du cerveau associées à celle-ci s'atténuait, imaginez. Au cours d'une autre expérience, le chercheur a invité les participants à interpréter différemment la douleur, en leur laissant entendre que les picotements et les élancements engendreraient un sentiment de bien-être qui se propagerait dans tout leur corps. Un peu comme lorsqu'on a les pieds très froids et que l'on plonge dans un bain chaud. Au début, ça brûle, mais on sait que c'est un moment à passer avant d'être bien. Encore une fois, l'effet de ces suggestions était bien visible à l'imagerie cérébrale. Les psychologues se servent souvent de métaphores auprès de leurs patients souffrant de douleurs chroniques. Jacques Desaulniers leur propose d'imaginer un liquide bleu qui circule dans leur corps pour geler la douleur ou une odeur d'herbe fraîche qui entre par leurs narines pour les apaiser. Il s'agit de trouver le canal le plus efficace pour la personne, qu'il soit visuel, auditif, kinesthésique, olfactif ou gustatif, dit le psychologue. Alors voilà, j'aurai la deuxième partie de cet article très intéressant dans la deuxième demi-heure de l'émission. Alors Roger, une brève, vous en avez une pour nous?
Oui. Parlant d'enfants, tout à l'heure Serge nous en parlait. Là. Vous avez besoin d'idées pour préparer votre prochaine fête d'enfants. Pour 4 000 $ seulement, vous pourriez embaucher l'entreprise londonienne Sharkey & George qui organisera une fête de haute voltige à bord d'un jet privé. Animé par des acteurs costumés, les activités comprennent collations sucrées et jeux thématiques à près de 14 000 mètres d'altitude. Prévoyez aussi 12 000 $ l'heure pour la location de l'avion.
Et bon ça.
C'est à la portée de toutes les bourses.
Exactement. Et une seule commotion augmente le risque de démence, le saviez-vous, une commotion cérébrale? D'après une étude de cohorte portant sur plus de 2,5 millions de Danois, les sujets ayant subi un traumatisme crânio-cérébral risquent davantage de souffrir de démence, imaginez. Hein, c'est ce qu'on dit. Alors, vous voyez, les fameuses commotions cérébrales qu'on parle dans le sport, ça peut faire beaucoup de tort. Alors, on s'en va directement dans la deuxième partie de l'émission. On vous dit bon matin à tous.
Vous écoutez les voix de service.
Et le ciel était noir cancer. On a attendu qu'il s'endorme pour partir rejoindre la mer. On a pris l'urne par les cornes et sans regarder en arrière. J'ai posé dans la salicorne les cendres de mon père. J'aurais jamais dû partir, j'aurais dû te retenir, Maya. On s'était entendu. Peu de cris, peu de pleurs, personne part avant l'heure, Maya. Pourquoi l'avoir rompu? Le pacte de sang qu'on a signé, adolescent, tous pour eux, et droit devant. Sans toi, sans diogène, plus d'air, plus d'oxygène, Maya. C'est plus comme avant. Pourquoi tu viens?
vide dans la vase. Et nous qui te pensions perdus, on fait un grand feu. On a fumé avec lui, aurais-tu, mais il a les yeux rougis. Dans nos signes et nos signaux, le silence radio aimait te m'aider. Je t'épargne les détails, Maya. J'ai creusé un grand trou. J'ai aimé des victuailles. Attends pour tes funérailles. Kaya avait prévu le coup. Elle a mis des vermisseaux un peu partout dans ton tombeau, Maya, pour que tu te reposes. Elle a mis des vermisseaux un peu partout dans ton cerveau, Maya.
Au voie de service, vous entendiez Lydia Kipinski, Maya.
Alors, Roger, deuxième article ce matin, dans cette deuxième demi-heure.
Oui, c'est dans l'actualité du mois d'août. C'est la chronique de Marie-France Bazot, « Des questions sans réponse ». Elle écrit « C'est l'été, la saison politique des épluchettes bat son plein. Les candidats aux élections du 1er octobre font leur smat. Un grain de maïs entre les dents, il serre des mains, tente d'engranger des votes. » Tout va bien pourtant. C'est dans la rue qu'on devrait être, à manifester, bruyant, excédé. À quelques semaines de la rentrée scolaire et des élections, le plus grand scandale de notre société continue à sévir. Tous le disaient pourtant, cette campagne aurait dû porter sur l'éducation. La question du décrochage scolaire aurait dû être au cœur des réflexions. On nous ment en pleine gueule quand on nous dit que l'éducation est importante au Québec. Début mai, l'Institut du Québec lançait une dévastatrice étude sur le décrochage scolaire qui stagne depuis 10 ans au Québec. À la fin du secondaire, 85 % des jeunes Ontariens ont un diplôme, contre 64 % ici, 51 % chez les gars, 1 sur 2. C'est un désastre qui hypothèque notre avenir. Certes, quelques voix, dont celle du chroniqueur Francis Veil de la Presse Plus, ont tempéré ce sombre portrait de l'éducation dans la belle province. Mais malgré ces nuances, cette vision globale nous oblige à un changement d'échelle, habitués que nous sommes à envisager les problèmes de façon morcelée. Beaucoup de questions qui concernent la lutte contre le décrochage scolaire sont toujours sans réponse. D'abord, peut-on remettre en cause le sacro-saint dogme de l'intégration à tout prix des cas-problèmes dans les écoles ordinaires du secteur public? Peut-on reconnaître que ça taxe un groupe quand 30 % de la classe est à problème? Que les professeurs ne sont pas assez outillés dans les cas, que les cas sont trop lourds, trop nombreux, que ça ouvre la voie au décrochage. L'écart entre le décrochage des garçons et celui des filles est 3 fois plus élevé au Québec que dans les autres provinces. Se pourrait-il que les gars aient des besoins particuliers? Ce que répète le spécialiste de l'éducation Égide Royer depuis des années. Les programmes et la pédagogie devraient en tenir compte. Seuls 50 % des Québécois francophones obtiennent leur diplôme en 5 ans, contre 82 % chez le voisin. écart qui fut multiplié par 3 en 10 ans. Le jeune homme québécois va mal. Comme son grand-père, il n'aime pas l'école. Ça aura des conséquences sociales et économiques pendant toute son existence. Il y a 15 ans, les masculinistes instrumentalisaient ce type de constat avec une rage idéologique. Peut-être devrait-on y réfléchir calmement aujourd'hui. Nous sommes au Québec les champions du rattrapage scolaire. À 20 ans, près de 80 % des jeunes auront repris et terminé leur secondaire, mais sommes-nous à ce point aveugles? On se régale de cette victoire qui est au fond un échec. Nous banalisons le fait d'étirer le parcours, nous normalisons la faillite des garçons. Cette diplomation tardive les fragilise pour toujours. Elle est coûteuse pour tous, pour eux au premier chef, qui traînent leur vie durant un manque à gagner salarial. Se pourrait-il aussi que la pression du marché du travail en situation de plein emploi dans une société qui n'aime pas l'instruction soit énorme? Trop? Se pourrait-il que le dogme du privé, de l'écrémage qu'il provoque, soit préjudiciable au système public d'éducation? La fréquentation du secondaire privé est de 20% ici. La fréquentation du secondaire privé est de 20% ici contre 5% en Ontario. Les élèves en difficulté sont désormais concentrés dans le secteur public normal où les classes s'alourdissent de 30 % d'élèves qui ont des difficultés d'apprentissage ou de comportement. Ça te tire un système vers le bas. Pourra-t-on admettre que la concurrence du privé a fini par fragiliser le système public québécois? Puisque nous finançons lourdement le privé, on devrait l'obliger à accepter un nombre appréciable d'élèves en difficulté de potentiels décrocheurs. Le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, a parlé de décrochage parental pour expliquer une part de l'échec de l'école québécoise. Il y a certes une responsabilité parentale et familiale, mais surtout, pas que cela. C'est encore une fois privatiser la responsabilité du problème, car à des hauteurs statistiques pareilles, c'est un problème de société. L'école obligatoire devait donner des chances égales à tous. Nous connaissons une partie des solutions pour contrer le décrochage de la maternelle 4 ans à l'obligation d'étudier jusqu'à 18 ans et faire de l'éducation le cœur de notre engagement collectif. Mais il faut cesser de se bercer de fausses réalités déprimantes qui nous paralysent, les politiciens les premiers. Alors si vous en croisez un dans une épluchette ces jours-ci, demandez-lui ce qu'il ferait, lui, contre le décrochage. Ça fera un beau sujet de conversation. Des questions sans réponse par Marie-France Bazot, c'est dans l'actualité du mois d'août.
Ouais, le fameux décrochage.
Oui.
Merci beaucoup, Roger. Dans quelques instants, vous revenez avec Serge. Alors, Serge, pas les haut-parleurs intelligents, comme vous disiez, mais
non,
les haut-parleurs
non,
intelligents.
Non, les haut-parleurs, toi, c'est quelque chose. Hein. Ils ont fait des tests dans la revue Protégez-vous. Et quels appareils écouteront le mieux vos ordres? Parmi les 8 modèles testés, un seul de ceux qui répondent aux commandes en français offre une qualité sonore acceptable. Et si vous continuez d'écouter, eh bien, vous allez savoir c'est lequel. Alors, il est 6h30 du matin. Pas présentement, là. En préparant le déjeuner de vos enfants, à qui vous avez acheté des poussettes usagées, n'est-ce pas? Vous vous demandez quel temps il fera au cours des prochains jours? Eh bien, dites simplement « OK, Google ». Quelles sont les prévisions météo pour demain? Et votre haut-parleur intelligent vous donnera la réponse. Incroyable. Vous voulez entendre la chanson « Comme des enfants » c'est celle-là, en tout cas, de cœur de pirate, ou tamiser votre ampoule, ou tamiser votre ampoule connectée Philips U-H-U-E. Alors, ça doit être U. Passez la commande et l'appareil s'exécutera. Et pas besoin de téléphone ni de télécommande. Aïe, aïe. Alors, voilà qui explique un peu le succès des haut-parleurs intelligents. Et selon le cabinet d'analyse de marché Canalys, c'est la catégorie de produits techno connaît la plus forte croissance. En 2017, 33 millions de ces appareils ont trouvé preneur dans le monde et cette année, Canalys prévoit que les ventes atteindront 56 millions d'unités. Alors, quel est le modèle pour vous? Alors, si l'idée de donner des ordres à une entité virtuelle vous séduit, notre test de 8 haut-parleurs vendu de 70 à 250 $ vous indiquera les appareils qui vous donneront le plus de satisfaction. Vous ne parlez pas anglais, ben certains modèles ne sont pas pour vous. Vous êtes mordu de musique, tous les haut-parleurs n'offrent pas une bonne qualité sonore. Et vous apprendrez également si le modèle qui vous intéresse est compatible avec le service de musique en ligne auquel vous êtes abonné et s'il est facile à configurer et à utiliser. On a décidé de tester les modèles les plus populaires comme les Echo et Home d'Amazon et Google, qui accaparent 95% du marché. On a aussi mis à l'essai des appareils fabriqués par des tiers comme Sonos et Sony, qui intègrent l'assistant vocal d'Amazon, Alexa, ou de Google, assistant Google. Ce sont tous des haut-parleurs fixes que vous devez brancher à une prise de courant. On n'a pas essayé le Home Max de Google ni le HomePod d'Apple qui sont arrivés sur le marché trop tard ce printemps pour être intégrés au test. Par ailleurs, si faire entrer dans votre maison un appareil toujours à l'écoute vous inquiète, vous n'êtes pas seul. Les experts aussi se questionnent quant aux conséquences sur la vie privée. Et on va voir leur point de vue et découvrir comment effacer les données enregistrées par les haut-parleurs dans les pages suivantes. Alors, les haut-parleurs, on continue. Les commandes vocales. Si vous dites « Fais jouer Daniel Bélanger » ou « Quel est mon horaire d'aujourd'hui ?», tous les haut-parleurs vous comprennent-ils? Nous avons posé à chacun 60 questions. En général, à condition que vous parliez suffisamment fort et que vous articuliez bien, parce que les haut-parleurs, ça marche pas. Les haut-parleurs saisissent bien les demandes, comme tout le monde d'ailleurs. Il y en a qui parlent comme ça. Ça n'a pas de bon sens. Je crois que les Français qui viennent ici, qu'est-ce qu'il dit? Ils ne comprennent pas. Alors, les haut-parleurs saisissent bien les demandes, tant ceux qui fonctionnent avec Alexa qu'avec l'assistant Google. Attendez-vous toutefois à devoir répéter à l'occasion. Ah bon, il doit y avoir des vieux haut-parleurs. Vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais et préférez un appareil qui comprendra vos directives en français, optez pour l'assistant Google, car Alexa ne saisit que l'anglais. C'est d'ailleurs pourquoi les produits d'Amazon et de Sonos ont reçu la cote acceptable sur le plan des commandes vocales. Et la qualité sonore maintenant. Si votre objectif principal est d'écouter de la musique, sachez que tous les haut-parleurs ne s'équivalent pas en matière de qualité sonore. L'Echo et l'Echo Plus d'Amazon sont nettement supérieurs aux autres, mais vous devez leur parler en anglais. Et quant au Home et Home Mini de Google, ils se sont avérés très décevants au chapitre de la qualité du son. Mélomane, passez votre tour. Et si vous préférez un appareil dont la qualité sonore est acceptable et qui comprend le français, optez plutôt pour le LF-S50G de Sony, qui est le meilleur choix du test. On a donc évalué la qualité sonore de deux appareils, l'Echo Dot, qui est conçu pour être connecté à un bon haut-parleur, et l'Echo Spot, qui s'apparente à un réveil matin intelligent. Si vous avez des appareils domotiques, une prise électrique intelligente, TP-Link ou des ampoules Philips Hue, par exemple, et sachez que la majorité d'entre eux sont compatibles tant avec Alexa qu'avec l'assistant Google. Les géants Amazon et Google proposent tous les deux des fonctionnalités qui sont exclusives à leur modèle. Leur haut-parleur vous permet, entre autres choses, d'effectuer des appels téléphoniques. Les produits de Sonos et de Sony sont dépourvus de cette fonctionnalité. Vous êtes abonné au service de musique en ligne Spotify Premium, alors tous les haut-parleurs s'y connectent sans problème. Toutefois, pour accéder à Amazon Music ou à Deezer Premium, vous devez opter pour un haut-parleur qui intègre Alexa. Et pour Google Play Music Plus, alors là, seuls les appareils qui utilisent l'assistant Google feront l'affaire. Alors, pas besoin d'être un geek pour installer et utiliser un haut-parleur intelligent. Vous branchez l'appareil, téléchargez une application Google Home pour les appareils compatibles avec l'assistant Google et Alexa pour ceux qui fonctionnent avec l'assistant du même nom. Vous suivez ensuite les instructions, dont l'application, notamment connecter l'appareil à votre réseau Wi-Fi, puis accéder à votre compte Google ou Amazon selon le cas. Pour installer le WAN de Sonos, vous devez toutefois utiliser une application supplémentaire. Bon, alors voilà, ça va pour ça? C'est bon? Voulez-vous savoir lequel haut-parleur est le meilleur maintenant?
Oui.
Bon. Alors, c'est le plus cher, hein? Mais moins cher qu'une poussette, hein? Oui. C'est 250 $ pour un haut-parleur neuf. C'est bon? La poussette était 950. Vous vous en souvenez, hein? OK. Alors, le Sony LFS50G, 250 $. C'est beau? Ensuite, à 180 $, Google Home. OK. À 70 $, c'est un bon choix aussi. C'est le Google Home Mini. Ça vous va?
Ouais.
Alors, si vous voulez en savoir plus, vous consultez le Protégez-vous. Mais maintenant, je ne sais pas si j'ai le temps.
Oui, oui, vous avez le temps.
Oui, il y a des espions.
Ah?
Ah, c'est ça le problème. Il y a toujours quelque chose. Avec l'Internet, là.
Uh-huh.
Afin de répondre à vos commandes, les haut-parleurs intelligents sont constamment à l'écoute.
Ah?
Ah! Inquiétant. Des experts appellent à un meilleur encadrement des pratiques de l'industrie. Vous discutez tranquillement en famille dans le salon où est installé un haut-parleur intelligent. Mm-hmm. Capte-t-il tout ce que vous dites? Amazon et Google assurent n'enregistrer que ce qui suit les mots Alexa ou OK Google. Ces commandes sont archivées en ligne pour une période indéfinie, mais vous pouvez les effacer. La plupart des gens ne prendront pas le temps d'aller effacer leurs données. Idéalement, ces entreprises devraient plutôt supprimer automatiquement les informations après un certain temps, croit Maître François Sénécal, conseiller principal en gestion de l'information. Alors, selon Amazon et Google, ces enregistrements servent à améliorer leurs services, notamment à perfectionner leur assistant vocal et à répondre de façon plus personnalisée, par exemple, en apprenant vos préférences musicales. Google pourrait aussi afficher sur le web des publicités ciblées en fonction de votre historique d'utilisation qui inclut vos commandes vocales. Mais rassurez-vous, vous pouvez désactiver le microphone de tous les haut-parleurs intelligents que nous avons testés. Une fonction utile si vous voulez être certain qu'une conversation demeure privée ou encore si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps. D'après Philippe de Grosbois, c'est pas n'importe qui, de Grosbois, enseignant en sociologie au Collège antique et auteur du livre « Les batailles d'Internet », le fardeau de protéger leur vie privée ne devrait pas reposer uniquement sur les épaules des usagers. Nos données sont très convoitées et peu protégées par les pouvoirs publics, dénonce-t-il. La collecte et l'utilisation de nos informations devraient être mieux encadrées légalement. Pour l'instant, c'est le « Far West ». Par conséquent, il est sans doute plus prudent d'aller effacer régulièrement vos données en ligne. OK? Et puis, comment effacer vos données? Eh bien, connectez-vous à votre compte et puis supprimez des activités, etc., etc.
Ah.
Alors, voilà. Il est possible de les effacer.
Il est possible.
Oh, mon Dieu Seigneur, qu'on a eu peur.
Il faudrait quand même savoir comment les effacer.
Même oui. Là, est-ce que c'est sûr?
Ah ben là, écoute, Roger, là, franchement.
On vous le demandera pas.
Quelle question en matin.
Ça va, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Serge. Je vous reviens dans quelques secondes avec la deuxième partie de l'étonnant pouvoir de l'hypnose. Alors, je vous ai lu une première partie sur le papier de Catherine Dubé que j'ai retrouvée dans l'actualité sur l'hypnose. En fait, c'est le pouvoir de l'hypnose pour le côté médical. Alors, je poursuis la lecture. La dentiste montréalaise Françoise Agispatz demande à ses patients de se plonger dans un souvenir agréable en faisant appel à leurs cinq sens, qu'il s'agisse de l'odeur, de la mer, entre autres, ou de la sensation de l'eau sur leur peau. Certains bruits, comme le vrombissement et le déplaisant de la fraise, peuvent être réinterprétés. À l'amateur de course automobile, elle suggérera qu'il s'agit d'un moteur de Formule 1, entre autres. Le dentiste n'a souvent besoin que du quart de la dose habituelle de produits anesthésiants. « Je fais très attention aux mots que j'utilise », souligne-t-elle. « Si je dis « vous n'aurez pas mal », le cerveau entend « mal » et la personne ressent davantage la douleur. « Je parle plutôt de bien-être, de sécurité », précise la docteure Spatz, qui pratiquait déjà l'hypnose en France avant de s'installer au Québec il y a 10 ans. Sous hypnose, les patients perdent souvent la notion du temps. Certains m'ont déjà demandé quand l'intervention commençait, alors que je venais de la terminer, raconte Françoise Agispatz. Elle a récemment soigné une femme dans la quarantaine si terrorisée à l'idée d'avoir des traitements dentaires qu'elle souhaitait les subir sous anesthésie générale. Sa phobie maintenant disparue, cette patiente est retournée sur le fauteuil 12 fois en 1 an, tellement elle aimait ça, pour subir toutes les interventions qu'elle avait négligées depuis des années. Au Québec, beaucoup de psychologues utilisent cette approche pour traiter l'anxiété, les dépendances aussi, l'insomnie et plusieurs autres maux. Mais dans l'univers médical et paramédical, les professionnels qui ont recours sont encore peu nombreux. Il y a bien quelques précurseurs comme le docteur Nathalie Fizet, qui pratique depuis plus d'une décennie des accouchements sous hypnose, ou le psychologue Sylvain Néron, qui s'en sert pour améliorer le confort des patients lors d'interventions comme une biopsie du sein ou certains traitements de radiothérapie particulièrement douloureux. Au CHU de Sainte-Justine, le psychologue Serge Sultan a formé 6 infirmières à l'utilisation de la communication hypnotique, qu'elles emploient lors des multiples prises de sang et ponctions lombaires que subissent les petits patients cancéreux. Elles suggèrent par exemple à l'enfant que son bras est recouvert d'un gant magique, solide et protecteur, qui le protégera de toute douleur. Elle l'invite aussi à regarder son bras comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre pour se dissocier des sensations désagréables, explique Serge Sultan. Ces avancées n'ont cependant encore rien à voir avec l'engouement que connaît l'hypnose en Europe, où elle a fait son entrée dans des salles d'opération et des services d'urgence. Au centre hospitalier Saint-Joseph-Saint-Luc à Lyon, tout le personnel médical des urgences a suivi une formation en 2014. L'urgentologue Daniel Agy la voit comme un outil supplémentaire à son arsenal médico-technique. Son premier patient en a bénéficié, un homme de moins de 30 ans, se tordait de douleur en raison d'une pierre au rein, même après avoir reçu de la morphine. Il a suffi de quelques minutes à l'urgentologue pour le calmer et le soulager pendant qu'il s'imaginait au restaurant avec des amis. Imaginez, j'étais vraiment excité que cela fonctionne aussi bien, se remémore la docteure Agy. Certains médecins de l'équipe l'utilisent régulièrement, au moment de réduire une fracture ou de faire des points de suture, par exemple. Les anesthésistes belges Fabienne Roëlan et Christine Ouattremez ont été les premières aux cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles à se servir de l'hypnose pour éviter une anesthésie générale aux patients qui doivent subir une mastectomie ou une ablation de la thyroïde, une option choisie par environ le tiers d'entre eux. Sous anesthésie locale, ces derniers sont plongés dans un état hypnotique durant 1 à 3 heures et demie selon l'intervention. Tout le matériel nécessaire à une anesthésie générale est à portée de main au cas où, mais elles n'en ont que rarement besoin. Nous faisons aussi beaucoup de suggestions post-hypnotiques pour diminuer les nausées et améliorer l'immunité après l'opération, dit toujours le docteur Christine Ouattremez. Dans une étude publiée dans une revue scientifique European Journal of Anesthesy, ces médecins ont rapporté que la cicatrisation se déroulait mieux après une hypnotédation qu'après une anesthésie générale. La grande majorité de la population est assez aisément hypnotisable. Des tests standardisés évaluent qu'environ 15% des gens le sont très facilement et qu'une autre proportion de 15% le sont plus difficilement. Mais dans un contexte médical, c'est surtout la motivation du patient et l'aptitude du praticien à personnaliser son approche qui assureront le succès de la technique. On ne peut en effet hypnotiser quelqu'un qui ne veut pas l'être. Plus la motivation de la personne est forte, mieux ça marche. Dès que l'on accueille le patient, On le baigne dans un langage hypnotique en lui faisant des suggestions de bien-être liées au thème choisi. Au moment de commencer l'intervention, il ne faut en général que 5 minutes et hop, ils sont partis. Donc, ça c'est dit par le docteur Rowland. Outre les classiques souvenirs de voyage, une femme a déjà demandé de faire du planeur et un curé a célébré la messe. Imaginez, quand même. Alors, l'hypnose de plus en plus utilisée ici au Québec pour l'anesthésie, entre autres, chez les dentistes. Alors voilà, c'est tout pour l'émission. J'aimerais me remercier les deux collaborateurs Roger Roy. Alors, bonne semaine à vous.
Au revoir, à la prochaine.
Et Serge Hamelin, bonne semaine à vous aussi.
C'était un honneur.
Merci à François Brodeur qui était à la technique ce matin. Maurice Bolduc, excusez. Pourquoi j'ai dit François Brodeur?
Ah,
c'est ça. OK, j'étais pas là la semaine passée en plus. Alors, je vous souhaite une excellente semaine et à bientôt.